verra. 4, 3, 2, 1.
Bonjour, Café Converse, une émission de C'est le Mag sur une idée originale de Benjamin Karchen, présentée par
Stéphane Pall
et Benjamin Karchen. Une émission enregistrée en public en partenariat avec Radio Pays des Roux. Café Converse est une émission de débat venant faire écho à des sujets traités dans C'est le Mag. Le public aura enfin l'occasion d'entrer en conversation avec nous et les invités débatteurs. Cette conversation va se dérouler dans le cadre accueillant de la House Café, où son propriétaire Samir nous a installés chaleureusement. Pendant le déroulement du débat, les personnes qui souhaitent intervenir peuvent le signaler, et un micro leur sera tendu afin de prendre la parole. Aujourd'hui, à Café Converse, nous allons débattre autour du sextoy.
En mars 2009, les lecteurs de C'est le Mag, le dossier de C'est le Mag était rédigé par Raoul Mihan. Merci à Raoul Mihan d'être ici aujourd'hui parmi nous. Ce dossier traitait des jouets intimes, traduction française de sextoy. C'est aujourd'hui pour nous l'occasion de revenir sur ce sujet. En effet, l'apparition dans le paysage commerçant d'un nouveau style de boutique ne laisse pas indifférent ces boutiques dont certains pourraient les qualifier de sex shop. Mettent en vente des lingeries fines et érotiques, mais aussi un certain nombre de produits ou d'objets à vocation sexuelle plus affirmés. Vibromasseurs, godemichés, cockring, masturbateurs, etc. Alors, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, il y a quelques-uns de ces objets présents sur la table de présentation, mais pour les auditeurs de Radio Pays des Roux, nous tenterons tout à l'heure d'en décrire quelques-uns ou d'entendre le bruit des vibrations pour certains d'entre eux.
Pourtant, ils ne seront pas à l'essai. Hein.
Non, pas encore. Les villes de Clermont-l'Hérault et de Lodève ont chacune leur boutique. Piment Mauve pour la première, Ruby Passion pour la seconde. Leur vitrine annonce la couleur et semble indiquer une certaine évolution des mœurs en ce qui concerne un affichage public. Y a-t-il une différence entre ce que nous proposent ces magasins aujourd'hui et les sex-shops d'antan ? L'apparition d'un vocabulaire plus doux, érotique pour pornographique, jouet intime pour sextoy, ne désigne-t-elle pas une même réalité ? Pour répondre à ces questions, nous sommes en présence de Muriel Bassi-Galupo, sexologue, diplômée d'un certificat en sexualité humaine de l'Université Laval à Québec, d'une licence et d'une maîtrise en sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle exerce depuis 15 ans donc en tant que sexologue en cabinet privé sur Montpellier et dans un service de gynécologie sur Béziers. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Muriel Bassi-Galupo est l'auteur d'un livre « Sexualité féminine au fil de la vie ». Nous sommes aussi avec Dirk Peup, propriétaire de la boutique Ruby Passion à Lodève. Il a commencé les ventes par internet, puis étonnamment, c'est à la demande de sa clientèle qu'il a ouvert un magasin. Dirk Peup, comment décide-t-on un jour d'ouvrir un magasin comme Ruby Passion ? Vous étiez déjà dans ce milieu au moment où les choses ont commencé à avancer ?
Ah non, pas du tout. On a décidé ça par rapport à de l'humour, c'est-à-dire on a voulu faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et en cherchant sur Internet, on a dit, voilà, on va monter un site Internet au début, et c'est ce qu'on a fait chez nous.
Un site Internet
De lingerie fine de sextoy
alors pourquoi,
et tous les accessoires.
Comment vient une idée comme celle-là ?
C'est-à-dire, un peu penché sur le sujet, je crois, et aimer le plaisir de la vie. Et voilà, donc c'était une blague entre amis, et après ça s'est évolué comme ça, quoi, voilà.
Qu'est-ce que vous vendez précisément ? C'est le moment de décrire un peu les objets qu'il y a sur la table, si vous voulez. Alors, assez rapidement, hein,
oui,
s'il vous plaît.
Alors, on a toute une gamme de sextoys, de tout simple, explicite, jusqu'au toy un peu rigolo.
Voilà, Stéphane Pall vous en présente un. Est-ce que vous voulez bien le décrire ou Stéphane, vous voulez le décrire ? Je ne sais pas.
Je vais peut-être laisser le professionnel le faire, parce que pour l'instant, là, j'ai un membre bleu, un schtroumpf, on peut peut-être l'appeler comme ça.
Ah oui, il existe en plusieurs couleurs, d'ailleurs.
Qui est clairement sans évoquer, enfin, un objet
très clair. Il s'agit,
voilà,
oui, c'est la forme d'un
pénis. C'est un sexe masculin.
Voilà, c'est plutôt le toy explicite, quoi, c'est-à-dire avec la forme du phallus. Donc, c'est pas le sextoy rigolo, quoi, comme on appelle. Voilà.
Alors, dites-nous un peu, son utilisation, le nom, par exemple. Est-ce que ça, c'est un godemiché, c'est un vibromasseur ?
Ah, c'est un vibromasseur, hein, voilà.
Voilà, donc, pourquoi ?
Parce qu'il vibre, donc il a des fonctions de vibrations donc qui donne du plaisir donc un peu plus fort quoi, voilà. Donc un godemiché tout simple, il vibre pas, donc c'est que l'insertion et les caresses, mais ça vibre, donc ça donne un peu plus de...
Il est un petit peu plus moderne que celui qu'on voyait sur le catalogue de la Redoute avec la femme qui tenait sur la joue.
Tout à fait, tout à fait. Il a des multifonctions, etc. Donc voilà, ça a évolué.
Alors on passe à un second objet. Alors là, si vous voulez bien le décrire, parce que là, il est en
forme. Moi, je l'appelle le porte-manteau maintenant.
Voilà, ça forme un peu d'un crochet, mais c'est l'ergonomie qui est étudiée pour donner le plaisir au maximum à la femme. Donc. Et ça, c'est un toy qui est superbe, qui est très beau, qui est discret.
Est-ce qu'il a un nom ? Parce que là, pour le coup, c'est pas un vibromasseur
donc,
ou c'est un vibromasseur ?
Tous ces toys qui sortent de Fun Factory, donc ils ont tous un nom, ils ont tous des fonctions différentes. Donc ça dépend le désir aussi de la femme, qu'est-ce qu'elle veut. Donc il y a des toys qui sont superficiels, après pénétrantes, etc. Quoi.
Mais au-delà de la référence commerciale, comment il est appelé par les clients, les utilisateurs ?
Est-ce que c'est aussi un vibromasseur ?
Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait.
Dirk Peup, quel type de clientèle recevez-vous ? Alors, s'agit-il plutôt de personnes qui entrent dans votre boutique parce qu'elles sont curieuses, parce qu'elles savent ce qu'elles vont acheter, parce qu'elles sont passées sur le site et qu'elles y entrent en se disant « je vais plutôt aller vers tel ou tel objet ?» Y a-t-il plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes ? Comment est-ce que vous...
Il y a tout âge qui rentre de 18 ans, donc c'est interdit en moins de 18 ans, et jusqu'à 75 ans, qui en ont même plus, hein, donc... Ça, c'est après, les gens y rentrent par curiosité parce qu'ils ont entendu parler. Après, des gens rentrent parce qu'ils en ont besoin.
Non, mais j'imagine qu'il n'y a quand même pas autant que c'est pas aussi homogène que vous avez l'air de le dire. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelques particularités dans la population qui fréquente le magasin ?
C'est majorité, c'est des hommes, quoi. Voilà. Donc, ça, on peut le dire parce que bon, ils sont peut-être plus curieux de voir qu'est-ce qu'ils se vendent. Chez nous, mais on a énormément de couples aussi qui rentrent et de femmes. Donc ça,
c'est étonnant. Pourquoi des hommes alors qu'a priori là les objets que vous avez apportés correspondent plus à des utilisations féminines ?
Oui, tout à fait. On se pose la question aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui rentrent pour voir ces objets ou pour acheter quoi. Voilà.
Ou alors c'est les hommes qui les utilisent sans aucun.
Peut-être. Ça, je me pose pas de questions quoi.
Vous vendez alors, quoi.
Voilà.
Cette clientèle, comment se comporte-t-elle dans le magasin ? C'est-à-dire que là aussi, est-ce que vous observez un certain type de comportement, de la timidité, des airs qu'on se donne, des discrétions au moment d'entrée ?
Oui, au début, les gens sont un peu perdus parce qu'ils voient plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent qu'on a un sex shop traditionnel qui a 30 ans ou 20 ans. Et ils voient des objets qu'ils n'ont jamais vus ou qu'ils ont vus sur le site internet ou sur internet. Mais après, ils commencent à chercher et on les guide. Voilà, on fait vraiment l'explication des objets, à quoi ça sert, les atouts. Voilà, donc on les guide vraiment d'A à Z, quoi. Voilà.
D'ailleurs, en parlant de guide, c'est moi qui vais essayer. Donc, Madame Muriel Bacigalupo, en quoi consiste exactement votre métier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche de ce que fait Dirk Peup ?
Forcément, puisqu'on est en train de parler de sexualité, donc mon boulot, c'est justement de comprendre la sexualité, et surtout comprendre les difficultés qui tourne autour de la sexualité. Donc, bien sûr qu'il y a un rapprochement. Après, je pense que peut-être que là, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que là où les conseils commencent et les questions commencent à arriver, c'est vrai que peut-être que vous, de votre côté, dire que vous devez être un peu plus limité après, hors technologie. Et puis, c'est là où nous, on arrive pour essayer d'approfondir un peu les questions qui vont et répondre aux questions qui vont se poser.
Et à qui s'adresse donc quel est votre public ?
Mon public à moi en consultation.
Oui, exactement, puisque est-ce que ça se rapproche du public de Dirk Peup ou alors c'est des gens complètement différents ?
Alors là, je ne pourrais pas dire exactement. Pour ce qui concerne mes patients à moi, patients et patientes, généralement, c'est des hommes et des femmes qui ont des difficultés dans leur sexualité. Alors, ce qu'on voit le plus souvent au niveau féminin, c'est beaucoup de troubles du désir, manque de désir ou absence totale de désir. Et puis, on a des douleurs à la pénétration, on a du vaginisme qui est une incapacité à être pénétré. Et c'est là où les objets de Dirk ont un intérêt, puisqu'on va souvent adresser les patientes pour leur demander d'aller acheter ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des lady fingers. Donc, c'est aussi des vibromasseurs, mais c'est un terme joli qui permet justement de sortir un peu du truc pornographique.
Lady finger. Est-ce que un des objets qui est sur cette table correspond au lady finger ?
Alors, écoutez, c'est encore plus simple. L'Edifinger, il est très, très basique. Il a une forme phallique et il est beige ou rosé ou violet. Ceci étant dit, il n'est pas nervuré, il ne vibre pas forcément, mais il peut vibrer également. Dans l'intérêt pour soigner le vaginisme, c'est justement de permettre à la femme d'apprendre à introduire à l'intérieur du vagin pour tout doucement dépasser ses peurs et pouvoir après être dans un rapport sexuel avec son partenaire. Donc, on s'en sert à ce moment-là de façon thérapeutique, nous, de notre côté. Et puis, on a les femmes qui viennent pour anorgasmie. On a les mésententes sexuelles de couple. Mais mon Dieu, qu'il y en a. Et puis, du côté masculin, beaucoup des troubles érectiles et des problèmes d'éjaculation rapide. C'est principalement ça.
D'accord. Binge.
Dick Perp et Muriel Bassi-Galupo, j'ai une question qui peut vous concerner l'un et l'autre. Ça concerne la présence de magasins comme celui dont on parle, Ruby Passion par exemple, dans des villes moyennes ou grandes, à savoir Béziers, Montpellier ou les villes qui sont plus grandes. Cela permet aux clients de bénéficier d'un anonymat. Forcément, dans des villes plus réduites comme Lodève ou Clermont-Lérault, à savoir autour de 8000 habitants, l'anonymat semble pour le coup nettement remis en question. Alors, quelle perception vous avez finalement de l'émergence de magasins qui relèveraient peut-être du sex shop, et en tout cas de la question franchement assumée de la sexualité? Quel regard vous portez sur l'émergence de ce type de magasins dans des villes plutôt petites?
Ben pour nous, pour Ruby Passion, c'est-à-dire il faut bien choisir déjà les produits que vous vendiez. Donc nous, on a choisi des produits un peu de haut de gamme et de moyenne gamme. Donc après, c'est aussi dans le magasin, la devanture, etc. Donc est-ce que présenter des produits ou pas? Après, il faut mélanger les produits aussi avec de la lingerie coquine, etc. Donc là, c'est vrai que les gens, ils disent oui, on n'aime pas toujours rentrer parce qu'on a... On a un peu peur du regard. Donc nous, on a mis le magasin à l'extérieur un peu du centre-ville, spécialement pour ça, quoi. Donc, c'est-à-dire pour pas que les gens soient vus de tout le monde, quoi. Donc c'est pas évident, mais on essaye de gérer au maximum, quoi. Voilà.
Moi, je pense que de toute façon, c'est une démarche qui reste quand même encore difficile aujourd'hui. Hein, au même titre que de venir consulter le sexologue, on n'y va pas forcément avec facilité. Et je pense que moi, la première, quand j'ai dû mettre les pieds la première fois dans une boutique érotique pour aller acheter des ladyfingers pour mes patientes, je peux vous assurer que j'en menais pas large non plus. Alors, je me suis dépêchée de sortir ma carte professionnelle en justifiant que j'étais sexologue. Ça m'arrangeait bien. Après, on prend ses aises, on s'habitue. C'est vrai qu'on est bien accueillis aujourd'hui. Il y a souvent aussi des vendeuses dans ce type de boutique, donc qui nous permettent en tant que femmes d'être beaucoup plus à l'aise et de sortir du côté un peu glauque qu'on pouvait retrouver à l'époque dans les sex shops, dans les petites ruelles. J'ai une anecdote justement sur cette période-là où moi j'allais sur Montpellier, donc c'était un tout petit sex shop. Et puis donc forcément, je fais des commandes de 20 ou 30 ladyfingers à chaque fois. Et puis il y a un monsieur qui m'a suivi en sortant du sex shop. Il a dû se dire, celle-là, elle a l'air vraiment. Elle a besoin que je lui apporte un coup de pouce, grande consommatrice, tout à fait. Et donc m'a proposé gentiment ses services. Alors je l'ai renvoyé dans ses penates, mais voilà. Et je trouve que les boutiques érotiques aujourd'hui sont faites de façon telle qu'on est beaucoup plus à l'aise pour y rentrer, on est bien accueilli et il y a vraiment plus ce côté un peu, j'ai envie de dire salace, qu'on pouvait retrouver avant.
Est-ce que vous pensez que ça correspond à une évolution de mœurs, puisqu'on a vu apparaître ces boutiques relativement récemment? Dans les grandes villes, on voit carrément des supermarchés d'objets sexuels. Dans les petites villes, ça arrive. Alors pourtant, il y a tout ce qui est la notion d'anonymat, de tabou, qui semble être peut-être, vu l'arrivée de ces boutiques-là, dépassé. Mais dans la pratique, on semble qu'il y a besoin d'être un petit peu isolé, d'être un petit peu dans l'arrière-ville. Pareil, au niveau de vos clients, pour les envoyer dans ces boutiques-là, récupérer des ladyfingers ou des objets un petit peu plus forts, peut-être. Comment ça se passe? Parce que déjà, venir chez un sexologue, c'est pas évident. Et puis après, les envoyer dans des boutiques de cet ordre-là, ça doit être aussi une démarche très difficile pour vos patients.
Alors, on a effectivement évolué puisque la sexualité est énormément médiatisée depuis quelques années. On le prouve encore nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, je pense que ça a permis de libérer beaucoup la parole. Les gens, en tout cas, même s'ils ont toujours autant de mal à le faire, en tout cas, vont faire cette démarche-là, ce qui n'était pas le cas quelques années auparavant. Alors, on sort tout doucement du tabou. Ceci étant dit, on a l'air, en France, moi si je fais le parallèle avec le Québec, on a l'air quand même assez déluré, alors qu'on ne l'est pas tant que ça, et on a quand même beaucoup de gêne à parler des difficultés. Et puis on est aussi dans une société de consommation, et de consommation sexuelle également. Donc on est très exigeant, on a beaucoup d'attentes. On est toujours en train de chercher des solutions pour essayer d'avoir encore plus, et je pense que ça rentre dans ce cadre-là également.
Et au niveau des attentes, justement, là, on peut rebondir sur votre métier, comment les gens se présentent, et ces attentes-là correspondent à quoi ? Est-ce que c'est une démarche vraiment personnelle, ou c'est parce que ça devient aussi l'image de la société, avec l'accès de la pornographie qui a évolué aussi via la télévision, avec l'arrivée de Canal, ou les boutiques, les vidéoclubs ? Est-ce que l'attente, elle est en corrélation avec les envies, le désir des gens ?
Alors, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont réellement en souffrance, hein, qui ne sont pas uniquement dans une recherche de performance sexuelle. D'ailleurs, ces gens-là, moi, je les ai très, très peu en consultation. C'est des gens souvent qui en ont parlé à leur médecin généraliste ou à leur gynéco dans un premier temps et qui ont été adressés vers moi après comme spécialiste. On constate toujours entre les médecins généralistes et moi qu'il y a encore beaucoup de gens qu'on perd en cours de route. C'est-à-dire que le médecin leur a conseillé de venir, mais il leur a fallu encore quelques années avant d'arriver à trouver le courage de faire cette démarche-là. Et puis, c'est vrai que toutes les émissions de radio, les émissions de télé, les magazines parlent beaucoup de sexualité, nous invitent beaucoup en tant que spécialistes. Donc je pense qu'encore là, ça facilite un peu cette démarche. Alors on a un petit peu de tout.
Dick Peup, bien que vous ne soyez pas sexologue, n'entretenez-vous pas avec votre clientèle des relations commerciales, de conseil ?
Oui, mais à certaines limites, c'est-à-dire on ne va pas aller jusqu'au bout. Nous, on ne peut que conseiller sur les produits qu'on vend et aussi donner un peu de... ce n'est pas vraiment du conseil, c'est-à-dire on ne peut pas faire la même chose que qu'un sexologue, ce n'est pas possible. On ne peut pas aller jusque-là. Par contre...
Comment vous faites, justement, quand vous vous êtes confronté, parce que j'imagine que cela arrive aussi, comme cela se passe dans n'importe quel magasin, que l'intention d'acheter un objet conduise à en expliquer les raisons ou les questions connexes que cela suscite. Comment est-ce que vous réagissez dans ces moments-là ?
On essayait de... Moi, je suis là pour vendre, donc moi, j'ai un but commercial, donc c'est complètement différent. Mais c'est vrai qu'on rentre carrément dans l'intimité des couples et des gens. C'est pas facile pour résoudre le problème.
C'est pas facile pour vous, en tant que vendeur d'objets sexuels.
Tout à fait.
Mais alors, il y a peut-être quand même un besoin de la part des clients qui arrivent. Puisqu'ils, quand même, finalement, ils s'ouvrent à leur intimité.
C'est peut-être les clients que le sexologue a perdu en route, qu'ils viennent chez nous chercher une solution.
Et vous-même, vous les orientez à ce moment-là ?
Oui, si c'est nécessaire, oui, bien sûr. Moi, j'ai eu des clientes ou des clients qui sont venus et moi, je leur ai dit de consulter leur médecin généraliste ou aller voir un spécialiste carrément.
Vous ne craignez pas, Muriel Bassiga-Lupo, qu'il y ait une tentation parfois des propriétaires de magasins de jouer le rôle du sexologue, du psychothérapeute ou autre ?
Alors, le sexologue, le sexologue comme quoi, le lapsus, le sex shop dans lequel j'étais allée il y a plusieurs années en arrière m'avait dit, sans connaître ma profession, que lui, il était un peu sexologue. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des quiproquos. Ceci étant dit, je pense que les informations, on peut donner quelques conseils, forcément, mais on n'est pas dans un objectif de résolution, de traitement d'une difficulté sexuelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Vous-même, est-ce qu'il vous arrive d'orienter vers des magasins comme The Ruby Passion ?
Oui, tout à fait. Régulièrement, alors en préparant...
Vous orientez en disant « il serait bon que vous alliez vous balader dans ce type de magasin » ou il y a déjà quand même une orientation plus précise avec une indication, tel objet ou telle pratique pour une personne seule, pour un couple, enfin...
Alors généralement, il y a plutôt une indication très, très précise, c'est-à-dire que ça va être les Ladyfingers dont on parlait tout à l'heure, ça peut être des gels lubrifiants, donc je sais qu'il y a des gels de qualité et qui peuvent aider les patientes qui sont en disparunie vaginale.
Est-ce que ça se présente comme une ordonnance en fait ?
Oui, bien sûr. Après, moi je ne l'écris pas sur le papier, mais je leur donne effectivement le nom, la marque du produit, je leur explique pourquoi ce type de produit, parce que c'est un gel lubrifiant qui n'est pas à base d'eau, qui se déshydrate, qui sèche moins rapidement, qui est plus huileux et plus agréable. Il peut y avoir aussi il y a des jeux érotiques style les jeux de loi avec des gages à faire et qui peuvent permettre d'amener un couple à remettre un peu d'humour et de légèreté dans leur sexualité. Donc ça vient s'intégrer en petit complément par rapport à un travail thérapeutique.
D'accord. Et pour rebondir là, monsieur Dirk Peup, est-ce que lorsque vous avez dans votre clientèle qui se présente à l'opposition de madame, alors je vais essayer, Bachi Galupo, des gens qui viennent rechercher la performance sexuelle ?
Ben oui, c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est que les gens ils pensent qu'on a une pharmacie derrière, mais c'est pas vrai, il faut être honnête là-dedans. Moi je peux conseiller à certaines personnes un Cochrane, un gel qui est...
Cochrane, il faut peut-être redire ce que c'est alors.
Un anneau peignant qui vibre pas. Donc,
alors là, je pense même là, ça vaut le coup d'être un peu plus explicite.
Donc c'est un anneau qui se met sur le pénis de l'homme, qui retient donc le sang, qui retient aussi l'éjaculation, etc. Donc ça retarde un peu le point de l'éjaculation, mais c'est pas le produit miracle. Donc on le dit honnêtement, il faut pas, nous, on n'est pas là non plus pour dire aux gens, voilà, vous allez faire des performances d'un olympique, 5 heures, 6 heures, même 2 jours, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut être honnête là-dedans, quoi. Voilà. Donc, après, les gens, il y a une déception. Donc, on a des produits qui stimulent un peu, qui retardent, chauffant, des gels, des huiles, etc. Mais tout ça reste un jeu entre deux personnes ou trois personnes, ou voilà, entre les personnes, quoi, voilà.
Et c'est pas dans le cas, plutôt quand je parlais de recherche de performance sexuelle, c'est de dire... une recherche de comme un sport olympique ou quelque voilà. chose en disant voilà, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus fort, voilà. j'en reste plus à
oui.
C'est pas suffisant pour moi, j'ai besoin d'un truc énorme. Là on a sur la table des choses qui sont quand même assez impressionnantes en termes de taille.
Oui, il faut faire attention dans tout ça, parce que bon
ça se rapproche plutôt de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Là, on a des magins.
Voilà, c'est la discussion qu'on a souvent dans la boutique. On a une table qui présente tous les toys, donc les gens ils peuvent les toucher, ils peuvent les voir vibrer, etc. On ne dirait pas qu'ils l'essayent, parce que bon, c'est pas possible. Mais ils voient vraiment l'objet, ils peuvent le toucher, ils peuvent voir si la texture leur plaît, etc. Donc déjà, c'est un premier pas. Après, on explique aussi les performances techniques de tout. Mais comme j'ai dit, c'est toujours un jeu, c'est toujours quelque chose qui sort... Qui doit se faire dans une bonne entente. Et bon, il faut pas non plus attendre que ça remplace une vraie relation sexuelle ou quoi que
voilà,
ce soit.
Un
quoi,
sujet voilà. Sur lequel on va revenir dans quelques instants. J'en profite pour rappeler, s'il y a des personnes ici qui souhaitent profiter de ce débat, c'est le MAG, Radio Pays d'Hérault, à la House Café, pour poser des questions, prendre la parole. C'est quelque chose qui peut se faire à n'importe quel moment durant le débat. Il suffit de se signaler et Adrien fera passer un micro dans la salle de la House Café. Et on prendra le temps de s'interrompre à ce moment-là pour écouter les personnes qui veulent intervenir. Alors, il y a un thème aussi qu'on souhaitait aborder avec vous. C'est quelque chose dont Stéphane a un peu parlé tout à l'heure, à savoir l'évolution des mœurs. Y a-t-il une évolution des mœurs ? Est-ce que vous observez une évolution des mœurs, de notre rapport à la sexualité ? Et on pourrait considérer que l'ouverture de magasins comme celui de Ruby Passion serait un indice, un indicateur de ce changement de notre rapport à la sexualité. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, de ce point de vue-là que vous pourriez commenter ?
Alors, moi, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus dans une recherche de performance et peut-être à l'excès. De temps en temps, quand j'ai des jeunes femmes qui ont 18 ans et qui arrivent en me disant voilà, je suis anorgasmique, alors que ça fait 2 mois ou 3 mois qu'elles ont démarré leur sexualité, elles se sont déjà auto-diagnostiquées. Donc il y a quand même souvent tout un travail à faire pour essayer de recadrer un peu les choses, les relativiser, de leur expliquer que la sexualité c'est quelque chose qui se mûrit, qui se découvre avec le temps. Il y a beaucoup de jeunes hommes aussi qui sont déjà en consultation pour des difficultés érectiles alors qu'ils sont en très bonne santé sexuelle. Simplement, là aussi, sont des angoisses de performance. Ils ont regardé les films pornographiques. Ils veulent faire aussi bien ou aussi long, aussi longtemps. Et se crée vraiment un stress au point que ça vient inhiber leur érection. Et ce qu'on constate également, c'est qu'il y a beaucoup de demandes de chirurgie de la verge, donc d'élargissement et d'allongement de la verge. Alors moi, les chirurgiens avec qui je travaille, on est obligé de faire tout un tri avant opération pour s'assurer qu'il y ait une demande qui soit légitime, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont véritablement en dessous de la moyenne, qui ont ce qu'on appelle des micro-pénis avec des malformations. Donc là, l'intervention chirurgicale est nécessaire, mais bien souvent, ce n'est pas le cas.
Ouais. Et justement, quand les gens qui se présentent à votre cabinet pour ce genre de problème, est-ce que du fait de votre refus, ils ne se tournent pas vers des boutiques telles que Ruby Passion pour essayer de combler ce manque ou aller chercher quelque chose d'autre ? Et comment vous réagissez-vous par rapport à ça ?
Ben nous, on a beaucoup de clients qui arrivent, qui disent, on a quelques-uns qui arrivent, je veux le surtout les hommes dans ces cas-là, qui disent je veux le plus gros toy, le plus performant, le plus. Nous, on n'a pas, hein, donc ça existe. Hein, moi, je sors le catalogue, donc ils peuvent choisir s'ils veulent, mais je dis, bon, y a plus gros que ce qu'il y a sur la table, hein, même beaucoup plus gros, donc il faut faire attention. Donc je leur dis, mais il faut peut-être. Est-ce que vous avez déjà fait avec un toy? Est-ce qu'il y a déjà de l'expérience là-dedans? Et quand on épluche un petit peu, y a, c'est le néant, quoi. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont jamais vu, mais par contre, ils ont vu des films porno ou ils ont vu ça sur Internet, etc. Des choses qui sont faites complètement différentes, quoi. Ça n'a rien à voir avec. Avec
est-ce qu'il vous arrive de refuser de vendre justement ces objets qui sont disproportionnés, parce qu'on peut imaginer les conséquences que ça peut avoir. Bon, là, il n'y a pas de médecin urgentiste ici présent, mais on en sait les conséquences et je pense que vous pouvez avoir des échos de ce genre de choses.
Ben, c'est tout simple, on n'en a pas. Donc, dans notre boutique, on ne les vend pas. Donc, c'est-à-dire, on ne vend que des produits de qualité et des produits qui sont plutôt un côté humoristique, qui sont sympas, qui sont des belges objets aussi. Que des choses qui sortent de l'extrême, quoi. Voilà, l'extrémité, on ne peut pas. Là, si vous rentrez là-dedans, je ne crois pas. Voilà, il faut sortir tout de suite, quoi. Voilà, donc c'est pas la peine.
Alors, il y a une intervention qui est demandée dans le public, mais juste avant de céder la parole au public, j'aimerais revenir quand même sur un élément qui me semble assez important, c'est qu'à la question de l'évolution des mœurs, on nous a répondu par la performance. Et en quoi, pour le coup, est-ce que vous pour Muriel Bassigalupo, vous avez relié effectivement la question de la performance aujourd'hui à un phénomène de société où la question de la performance pose de grandes difficultés, y compris dans le champ social, économique. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre cette augmentation des demandes d'une performance exacerbé sur la question sexuelle avec une augmentation aussi des demandes de performance dans notre société?
Je pense que oui, forcément, puisque c'est on veut tout de suite, on va être au top partout, et ce qui crée aussi des fois l'inverse de ce à quoi on aspire, parce qu'on est beaucoup de stress, on est très exigeant envers nous-mêmes, très exigeant envers le partenaire, et on finit par se créer des difficultés là où si on était un peu plus dans le jeu, la détente et la légèreté, ça fonctionnerait beaucoup mieux.
Et est-ce que vous pensez que les objets, par exemple, qui sont sur cette table répondent à la détente et à la légèreté ou au contraire ne présentent-ils pas le risque d'amplifier cette idée d'une sorte de matérialisation, d'une distance entre les corps humains faits de chair? Et là, on a devant nous quand même un objet rempli de bimétalliques, d'une partie en métal qui a il y a ultra 7 noté dessus, il y a plusieurs vitesses de rotation, il y a là une sorte de mécanisation de l'objet sexuel qui est extrêmement, à mes yeux pour le coup, éloignée peut-être du canard que tout le monde connaît et qui a ce côté extrêmement ludique qu'on met au bord de la baignoire et à la rigueur chacun sait ou ignore de quoi il s'agit.
Écoutez, je pense que tout est une question aussi d'équilibre, de recherche d'équilibre. Là, vous entendez la vibration de la verge qui tourne avec les billes à l'intérieur, plus le lapin qui est au-dessus, qui est censé vibrer pour le clitoris. Donc, vous avez toutes les stimulations possibles. Il en manque une, hein, il manque la stimulation anale. Ça m'étonne, ils n'y ont pas pensé. Ça existe, ça ne m'étonne pas. Il y a une double, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours éviter de tomber dans l'excès, hein. C'est comme pour tout, c'est-à-dire que si on est relativement mature dans sa sexualité, on va donner comme fonction à ces jeux-là une fonction de plaisir et d'amusement. Par contre, si on a des problèmes dans son propre rapport à la sexualité, effectivement, on risque de tomber dans de l'addiction, dans de la dépendance. Et là, je crois que c'est pas... encore une fois, ça va tomber dans quelque chose de pathologique.
Vous écoutez Radio Pays des Roses sur le 89 et 102.9 FM. C'est l'émission débat Café Converse, proposée par Selmag, présentée par Benjamin Karchen et Stéphane Pall.
La première intervention dans le public, Mademoiselle.
Oui, alors justement, je pense que ça rejoint un peu la remarque de Muriel Bacigalupo. Donc, est-ce que le fait qu'une femme utilise régulièrement des sextoys ne va pas engendrer chez son partenaire masculin une certaine frustration et de ce fait éloigner un peu la relation de couple qui était bonne jusqu'alors et qui peut amener à une certaine jalousie finalement entre le partenaire et le sextoy?
Qu'est-ce qu'il veut répondre ? L'un et l'autre, peut-être ?
Alors, je peux peut-être déjà apporter un élément de réponse. C'est une question, effectivement, qui est intéressante et qui se produit parfois, en tout cas, qui nous est confiée dans le cadre de nos consultations. J'ai une patiente qui a découvert l'orgasme par le biais du vibromasseur et qui ne fonctionne que par ce biais-là. Donc, le partenaire trouvait ça très rigolo au départ. Il était content de voir sa partenaire prendre enfin du plaisir. Ceci étant dit, au bout de quelques temps, il aurait quand même bien aimé que ça puisse être lui qui soit en mesure de lui apporter ce même type de plaisir. Et donc là, effectivement, on a un travail à faire pour essayer de rééquilibrer les choses pour que le couple puisse quand même continuer d'exister dans cette dynamique-là.
Nous, dans la boutique, on est très contents qu'un couple vienne à deux, quoi, parce qu'en même temps, on décèle un peu le petit problème. Et là, c'est vrai que l'homme est toujours là. Oui, on n'a plus besoin de nous, etc. Et on essaye d'adoucir un peu la remarque, quoi. Donc après, c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser comme beaucoup de choses, et en plus c'est vrai que c'est pour une femme c'est agréable, ou pour un homme, mais on essaye de conseiller ça au maximum, de dire bon voilà, c'est un produit, c'est un élément où on utilise à deux et c'est toujours pour le plaisir, quoi, voilà, c'est pas tout le temps, voilà.
Puis je pense qu'il faut pas oublier que ce type d'objet ne remplace pas tout. Hein, l'amour de l'autre, le regard de l'autre, sa chaleur corporelle, sa tendresse, c'est, il y a aucun objet qui puisse remplacer tout ça à la fois.
Pourtant, on peut imaginer, vous parliez tout à l'heure de jeunesse qui venait consulter pour des problèmes alors que c'est une période de découverte. Comment on peut imaginer à ce moment-là l'évolution de... Est-ce que ça devient une évolution de société où de plus en plus jeune, on a accès à des choses libertines avec la promotion via les médias d'objets sexuels? Comment ça se met en avant et comment... J'allais dire calmer le jeu ou détruire cette espèce de fantasme qui est à côté de la plaque, alors que la relation première est d'abord la relation humaine. Comment vous abordez ce genre de choses ?
Ben, moi, je trouve qu'effectivement, on prend le risque de perdre un peu le mystère qui entoure la sexualité, qui est quand même quelque chose qui permet d'élaborer beaucoup dans l'imaginaire. Et puis, on perd le plaisir de la transgression de l'interdit. Quand à l'époque, on n'avait pas accès à toutes ces informations, on pouvait s'imaginer beaucoup de choses, on pouvait en rêver. Pouvoir enfin transgresser un interdit, c'était quelque chose de très, très excitant. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout est un peu trop facile d'accès. Et le risque, c'est que ce soit ennuyeux très, très... Enfin, très vite. Et puis, on monte crescendo, toujours dans une recherche encore plus de nouveautés, de découvertes.
Et nous aussi, on doit suivre ça. C'est-à-dire, on doit conseiller les jeunes de ne pas tomber dans l'excès de tout ça et pas vendre des produits n'importe comment à n'importe qui pour que ça ne devienne pas quelque chose, une déception complète, quoi. Voilà, ça aussi, c'est très important.
On parlait tout à l'heure d'évolution des mœurs. Là, je vais énumérer des évolutions que l'on a pu voir au niveau cinématographique. On a vu il y a quelques années la frontière entre la pornographie et la réalité, c'est-à-dire avec les films tels que Romance X ou Baise-moi, qui sont des années 2000. On a vu l'évolution aussi en bande dessinée, où on voit arriver des bandes dessinées dans les rayons traditionnels type Fraises et Chocolat d'Aurelia Horita, qui apparaît en 2006. Il y a Fille perdue d'Alan Moore, qui est sorti en 2008. Et puis là, ce mois-ci, on a vu arriver Happy Sex de Zep, qui est l'auteur de Titeuf. Donc on voit les problèmes sexuels qui arrivent. Et on parlait de performance tout à l'heure. Il y a une image de Happy Sex, qui c'est une des premières images, où on voit un couple déshabillé. Il y a l'homme qui a un sexe assez conséquent. Et la fille, la première chose qu'elle fait, elle dit « Ah là, ça ne va pas être possible ». Est-ce que vous avez ce genre de choses aussi qui...
Alors ce genre de choses, Je pense que c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Je crois que c'est bien qu'on puisse avoir accès à la sexualité à partir du moment où c'est une information qui est juste, qui est correcte, qui est intéressante. Il faut éviter d'être dans cette consommation-là à tout va. Donc, je pense que c'est... Peut-être qu'un jour, on voit déjà apparaître, en plus, dans la société, on a toujours la pile et le face. C'est-à-dire que maintenant que ça devient un peu plus libéré, on a tout à coup des groupes d'associations qui réclament le droit à la non-sexualité. Ou qui vont revenir sur des notions de pas de sexualité avant le mariage. Donc voilà, je pense qu'à chaque individu d'essayer de tendre vers un équilibre là-dedans, en prenant ce qu'il y a de positif dans ce qui est apporté, puis en essayant d'éviter de tomber dans l'excès.
Donc il y a vraiment le résultat d'arriver de boutiques comme ça dans d'arrière-pays ou de petits territoires, le résultat d'une évolution de mœurs finalement.
Moi je pense que oui, ceci étant dit... très honnêtement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein, même si, encore une fois, en apparence, on a l'impression d'être une société très évoluée, très libérée sur la sexualité, je peux vous assurer que c'est encore très difficile pour la majorité des gens de parler simplement de sexualité et de venir consulter. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire.
Une deuxième intervention parmi une personne du public.
Bonjour. Alors moi je voudrais juste faire une petite remarque justement sur ce type de magasin sextoys. Ce que je trouve intéressant c'est simplement la démarche en fait qu'enfin peut-être on s'intéresse à la sexualité féminine alors que les mecs soient jaloux, Bon c'est bon, ils ont eu ce qu'il fallait. Et justement je pense que les gars ils ont besoin d'être informés, qu'ils lisent pas tous les bons bouquins, etc. Et que c'est un bon... c'est une bonne manière de savoir comment la femme peut avoir du plaisir, quoi. Voilà.
Il y a, là aussi, il y a encore beaucoup de cheminement. J'avais une collègue sexologue qui avait écrit un bouquin et qui avait titré sur la partie masculine « Un long chemin vers l'autre » et sur la partie féminine « Un long chemin vers soi ». Donc la femme a beaucoup ce travail à faire d'apprendre à se découvrir sexuellement et l'homme a comme travail à faire d'apprendre à découvrir comment fonctionne sa partenaire.
Et pour nous, ce n'est pas évident que, comme vous dites, c'est qu'on aime bien que les femmes et les hommes viennent, les couples viennent et qu'il n'y a pas que l'homme qui vienne chercher un sextoy pour sa femme, parce que ce n'est pas toujours évident le choix, les choses, et l'homme, il exagère dans tout ce qu'il veut, quoi. Là, ça, c'est le gros problème, quoi. Voilà.
On a entendu le téléphone sonner. En fait, c'est un des auditeurs qui appelle pour poser la question suivante. Vu les objets sur la table, c'est un auditeur anglais qui nous pose la question en disant l'expression « Oh my God », est-ce qu'elle vient de là ?
Je ne crois pas.
Allez savoir. Vous évoquiez, Muriel Bassi-Galupo, tout à l'heure, l'idée que finalement, les libertinages apparents ne correspondent pas à une réalité... justement de liberté autour de la sexualité de notre société. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des émissions télé, radio, où la question de la sexualité ou de la sexologie semble se banaliser, se généraliser. Les déventures de ces magasins, y compris certaines grandes surfaces, ouvrent leurs rayons à des objets sexuels. Est-ce qu'il y a quand même pas là pour le coup une transformation sociale au regard de ces sujets-là ?
Alors peut-être que la transformation sociale, on la réalisera ou on la constatera de façon plus forte avec la génération à venir, parce qu'eux n'ont pas grandi dans les tabous dans lesquels nous avons grandi. C'est-à-dire que si je repense aux femmes, on nous demande aujourd'hui d'assumer complètement nos désirs, d'avoir un imaginaire érotique assez riche, assez diversifié, d'oser exprimer nos attentes, de jouir et de... préférence de toutes les façons possibles. Alors, il faut qu'on soit clitoridienne, vaginale, si on veut faire le distinguo entre les deux, ce qui n'est pas forcé. On est censé être multi-orgasmique, donc il faudrait qu'on ait plusieurs orgasmes à la fois. Sauf qu'il y a 30 ans en arrière, et c'est la majorité des femmes de notre époque, on a reçu une éducation tout à fait autre, où on nous apprenait plutôt à être des bonnes mères et des jolis objets de désir et des grandes amoureuses, mais vous, certainement pas des femmes sexuées.
Justement, la femme sexuée ou l'homme sexué, vous considérez actuellement cette évolution, si c'en est une, comme un progrès ?
Bien sûr que oui, puisqu'on s'intéresse enfin à nous, en tant que femmes, dans nos désirs, on nous donne enfin l'autorisation de pouvoir y trouver du plaisir, s'épanouir dedans. Donc forcément, c'est du progrès. Mais encore une fois, attention à ne pas tomber dans une normalisation qui soit culpabilisante, c'est-à-dire à tout prix devoir réussir, etc. Parce que ça, encore une fois, ça peut avoir l'effet inverse et bloquer complètement. Sauf qu'on ne s'est pas défait de notre carcan. On a beaucoup de mal à se libérer de nos angoisses d'abandon, de l'image de la putain, de celle qui va se laisser aller, qui ne sera pas respectée. Donc, il y a encore une fois beaucoup de cheminement.
Et pourtant, je vais terminer sur cette idée. Je ne peux pas m'empêcher quand même de rejoindre aussi ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que c'est peut-être cette arrivée-là d'une sorte de nouveau libertinage. Aujourd'hui, par exemple, l'amour à plusieurs, l'échangisme deviennent des sujets de conversation au même titre que les soirées où l'on se regroupe autour d'un sextoy ou ce genre de choses, avec, voilà, semble-t-il, beaucoup d'amusement, beaucoup de liberté. On brise des tabous, on a cette sensation qu'enfin on peut en parler, donc on a gagné quelque chose. Et en même temps, on se pose la question, qu'est-ce qui reste de l'ordre du public? Qu'est-ce qui doit rester de l'ordre du privé? De quelle façon est-ce que cela va impacter sur ce que nous sommes, notre rapport à l'amour, à l'intimité, au secret? Est-ce qu'il n'y a pas quelques vertus de temps en temps à avoir des appréhensions, à être dans quelque chose qui est de l'ordre du tabou qu'on ne partage qu'avec son compagnon, son conjoint? Voilà, toutes ces questions, comment est-ce qu'elles sont accueillies dans votre cabinet? Comment est-ce qu'elles sont accueillies, dans votre magasin?
Ben, nous, on en parle, donc les clients qui viennent choisir des produits spécifiques, ça reste toujours dans le discret, quoi. C'est-à-dire, les gens-là, ils sortent pas sur la place publique avec leur fréquentation de clubs libertins ou des clubs échangistes, etc. Maintenant, bon, c'est vrai que moi, je viens d'un pays nordique. Nous, on a une vue complètement différente sur tout ça. Et il y a encore un bout de chemin à faire avant qu'on arrive à vraiment libérer tout ça aussi par rapport à la femme, par rapport à les désirs, etc. quoi. Donc maintenant, je ne sais pas, c'est que les gens, après, quand ils passent mon portail ou la porte, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous les objets, ça, je ne peux pas le dire. Mais
Dirk Puyp, il y a quand même, j'ai aussi cette impression que peut-être de votre côté... malgré vous, sans le vouloir, sans le savoir, vous participez à cette injonction, le plaisir à tout prix. Enfin, il a un prix parce que j'ai cru voir quelques étiquettes sur les boîtes des sextoys. Mais, et on peut aller plus loin sur la devanture des magasins comme Piment Mauve à Clermont-l'Hérault ou le vôtre à l'Odève. Il y a aussi des livres qui invitent à faire l'amour à deux, trois et plus. Exactement. Ou à être dans de l'échangisme. Il y a une forme d'injonction. C'est hype d'être là-dedans. Si on veut être un jeune de notre époque ou quelqu'un aujourd'hui, même quarantenaire, mais avec le jeunisme que l'on connaît actuellement, il faut être dans cette mouvance et ce rapport à la sexualité. Est-ce que vous, vraiment, vous ne vous considérez que comme un commerçant ou vous sentez qu'il y a quand même, du fait de votre place, une certaine responsabilité dans ce débat ?
Mais on est toujours responsable avec ce qu'on vend ou en étant le commerçant de ces objets-là, oui, quelque part. Hein. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il faut faire très attention à qui on vend et qui ont fait rentrer dans le magasin, et aussi bien conseiller les gens par rapport à les objets qu'on vend. Voilà, il faut toujours dire que voilà, l'amour se fait avec une autre personne, c'est la première chose à savoir, ou avec plusieurs personnes s'ils ont envie. Mais les objets, ça peut faire un atout pour certaines choses, pour certaines pratiques, ou certains fantasmes, ou des désirs, etc. quoi. Voilà, ça reste toujours dans ce domaine-là. Maintenant, je suis responsable, bien sûr, je suis responsable, mais les objets, les livres que vous voyez dans mon étalage, c'est des livres qui sont écrits par des gens comme vous et moi, et qui expliquent un peu leur parcours et qui donnent des conseils aux autres, par exemple, s'ils ont un désir de faire l'amour à trois, oser la fellation, oser les choses comme ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est des petits livres qui sont sympas. Mais bon, après, les objets et tout, il faut voir où ça va, quoi. Donc, c'est-à-dire, il faut toujours faire attention à qui on vend, quoi. Voilà.
J'ai une vague idée d'où ça va, quand même, ces objets-là.
Ça, c'est clair. Ouais.
Je pense que, de toute façon, il y a des limites à ne pas dépasser, parce que sinon, on prend le risque de se perdre. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui me racontent, qui se confient sur leur passage dans les clubs libertins, ou même la réalisation de fantasmes à Troyes, et qui en souffrent beaucoup ensuite, parce que ça a pu correspondre éventuellement à la demande de l'un des partenaires, pas forcément à l'autre, qui l'a plus fait pour faire plaisir à son conjoint ou par peur d'être abandonné par ce dernier, et qui a l'impression de ne pas se sentir respecté. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, donc je pense que si c'était la clé du bonheur, ça se saurait.
Merci pour cette approche. Après, on pourrait rebondir un peu sur les événements de société toujours. On a vu l'évolution. Là, il y a des objets qui sont extraits de séries télévisées. Là, c'était destiné à des adultes. Je crois que c'est Sex City, quelque chose comme ça. Il y a aussi une série qui est actuellement sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, mais là, qui s'adresse à des jeunes, où c'est des soirées d'échangistes, de drogue, sexe, qui abordent ce genre de questions. Et visiblement, ça bascule dans la réalité, où il y a des jeunes qui font aussi ce genre de soirée. Est-ce que ce n'est pas aussi une approche d'imaginer le fantasme devient réalité? Est-ce qu'il n'y a pas ce passage à l'acte-là?
Parce que le risque, c'est qu'on finit par banaliser en donnant accès par le visuel, ou je pense que c'est principalement le visuel, que ce soit magazine ou que ce soit télévision, on donne le sentiment que c'est quelque chose qui est normal. Et les jeunes grandissent avec cette idée-là et vont recadrer.
Même la banalisation de ces objets qu'on voit accessibles. C'est vrai que les catalogues de vente par correspondance débordent de ce genre d'objets-là. Et puis maintenant, les vitrines dans les magasins, est-ce que c'est aussi une approche comme ça?
Oui, après, c'est peut-être à nous en tant que... On est responsable aussi en tant que parents. Moi, je pense surtout aux jeunes, parce que nous, en tant qu'adultes, on est censé, encore une fois, avoir cette maturité qui nous permette de faire un peu le distinguo entre la notion de jeu de plaisir et puis l'addiction ou la pathologie. Je crois qu'on a surtout à être vigilant. On a un rôle à jouer par rapport aux jeunes et la transmission des messages. Le recadrage, il est nécessaire, quoi. Donc, on peut pas tout contrôler. Moi, je sais que dans mon rapport avec mon fils, j'essaie, quand le contexte, la situation se présente, de recadrer un maximum les informations en essayant de lui expliquer que c'est peut-être justement pas ça la réalité. Bon, je pense qu'ils sont en mesure de l'entendre, mais on a ce rôle éducatif et je suis convaincue que de donner des limites et mettre des interdits est encore une façon très structurante et qui permet de faire évoluer correctement le jeune.
Nous avons une question dans la salle, donc...
Alors moi, je voulais rebondir sur la fréquentation des clubs libertins, si ça sort pas trop du contexte, voilà. Donc moi-même, j'ai pu fréquenter les clubs libertins. Je voulais donc aussi simplement donc confirmer bien sûr les dires de Muriel Vatigalupo, mais aussi quand même préciser.
Confirmer dans quel sens?
C'était pas forcément une solution pour certains couples de pouvoir apporter, enfin trouver une réponse à leurs soucis.
Voilà, plutôt une confirmation dans le sens de la prudence.
Voilà. Simplement, je tenais quand même à préciser que pour certains couples, ça peut aussi apporter un certain équilibre. Ça évite notamment l'adultère, qui est, ne l'oublions pas, quasi omniprésent aujourd'hui dans notre société. Donc c'est aussi une façon de pouvoir trouver un certain plaisir.
C'est-à-dire que c'est une proposition de fréquenter un club libertin qui viendrait par défaut d'une résolution de crise du couple? Est-ce que c'est un peu comme ça que je l'ai entendu, hein?
Non. Il y a certains partenaires... Il y a certains partenaires qui sont bien, des couples qui sont très très bien ensemble, simplement qui souhaitent éprouver du plaisir avec d'autres partenaires, et voilà, et plutôt que de vivre la chose dans le dos de son conjoint, le vivre ensemble et partager ce moment, voilà. Donc c'est aussi des fois une forme d'entente dans le couple et d'équilibre.
Alors effectivement, c'est le discours que prône c'est le discours que prône beaucoup d'échangistes, c'est-à-dire que plutôt que de se tromper mutuellement, ils n'ont pas l'impression d'être infidèles et le vivent ensemble, ont l'impression que ça maintient le couple. Ça me permet de rebondir sur la fonction aussi des sextoys, c'est-à-dire que ça peut éventuellement être, pas éventuellement, d'ailleurs je pense que c'est souvent le cas, une façon d'éviter de tomber dans la routine, dans la lassitude et de créer un éloignement sexuel et amoureux. C'est-à-dire que le sextoy ramène du jeu, ramène de la complicité quand ils arrivent justement à passer le pas de la porte de la boutique ensemble en ricanant mutuellement, en étant tout gênés, et puis ils ressortent de là en rigolant. Ils sont contents d'avoir partagé ce moment-là d'intimité sexuelle, tout bêtement. Donc je pense que ça me ramène à ça.
Raoul Millan, qui est l'auteur donc du dossier dans C'est le Mac en mars 2009, nous fait le plaisir de prendre la parole.
Non, très, très rapidement, moi, ma question concerne l'éducation. Lors de l'écriture de cet article, j'ai été amené à vérifier par rapport à certaines statistiques un petit peu l'état des lieux, j'allais dire, de la sexualité. Et je suis tombé sur des chiffres qui sont assez affolants, et en particulier un chiffre... toujours très difficile à vérifier quand on parle de sexualité, mais en tout cas un chiffre qui est assez alarmant. On dit que 2/3 des enfants qui ont déjà 11 ans ont déjà visionné un film pornographique. Et ma question, c'est effectivement où et comment, pour des enfants pour qui cette sexualité est surtout une sexualité très très normée par rapport à la performance par exemple, où cette sexualité peut-elle se discuter, peut-elle être mise en question, peut-être interrogée, et surtout par rapport à ces normes, et puis par rapport à ces normes qui sont exclusivement souvent des normes médiatiques, quoi.
Alors si je peux me permettre de répondre, j'ai envie de vous dire tout simplement, normalement l'idéal c'est au sein de la famille. C'est pas l'école qui va jouer ce rôle-là, parce que les cours d'éducation sexuelle dans les écoles sont très basiques et axés sur l'appareil génital masculin et féminin. Entre guillemets, on ne parle jamais du clitoris dans la fonction sexuelle féminine, comme par hasard. Donc je pense pas qu'on puisse attendre ça des profs. J'aimerais que ça puisse être le cas, c'est-à-dire que j'aimerais qu'il puisse y avoir des groupes de discussion pour les adolescents au sein de l'école, avec éventuellement des spécialistes comme nous qui animeraient ce type d'échange. Je pense que ça serait intéressant, parce que justement, parfois, en parler aux parents, c'est pas évident. Le parent a peur d'être intrusif, lui-même peut-être pas très à l'aise avec le sujet, et l'enfant pas forcément envie de se confier dans sa propre intimité sexuelle et dans ses interrogations. Sauf que quand ce type d'échange est mis très tôt en place avec l'enfant, et l'enfant nous donne tout un tas de situations sur lesquelles il est possible de rebondir, ça crée quand même une complicité, et ce type d'échange est tout à fait possible.
Dirk Peup.
Nous, dans la boutique, on a le même problème, c'est que bon, il y a des jeunes qui viennent, ils ont vu une performance sur des films porno, on en avait parlé dans l'article d'ailleurs, et on essaye d'éloigner le plus possible ces choses-là en leur disant que c'est pas vraiment la réalité. On s'est documenté là-dessus, et on a même téléphoné à des producteurs, etc., comment ça se passe. D'ailleurs, il y a un article sur le net qui est arrivé aussi en disant, voilà... une scène dure 10 heures, c'est-à-dire c'est coupé. Maintenant, les jeunes, on leur explique ça et ils tombent un peu à la renverse, mais c'est bien, il faut leur moi, je leur fais plutôt peur de tout ça que je rentre pas dans ce jeu-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la pornographie, on exclut de chez nous, quoi. Voilà. C'est exclu.
En termes d'éducation, là, vous parliez effectivement de l'apprentissage de la sexualité pour la femme, c'est-à-dire l'usage du clitoris, etc. N'empêche qu'au niveau des objets qui ont été apportés ici, ce sont quand même des images, des outils a priori uniquement pour les femmes. Donc est-ce que c'est dans l'imaginaire de la société de consommation où ce sont des objets essentiellement destinés aux femmes qui sont nécessaires? Et donc, ça signifie que l'homme, il est entièrement satisfait, ou c'est la femme qui en demande et qui a besoin d'objets. C'est dans quel sens que ça se pose ?
Avant que vous répondiez, Muriel Bassi-Galupo, et aussi pour aller dans le même sens de la question de Stéphane, c'est les personnes qui imaginent ces objets, moi, je les imagine comme étant des hommes, puisque là, et je ne sais pas, est-ce qu'ils ont désigné ces objets pour répondre à un fantasme typiquement masculin, à savoir des verges avec toutes sortes de formes et de mouvements divers et variés qui correspondent plutôt à ce que l'homme imagine vouloir offrir à une femme, ou est-ce qu'ils ont été imaginés et dessinés en fonction du plaisir qu'une femme pourrait obtenir avec certains de ces objets. Voilà, alors l'un et l'autre, vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question en très multiple. Ouais.
Oui. Juste pour finir sur le même type de question, on a la même ambiance, je dirais, que dans les films pornographiques qui sont construits toujours de la même façon avec l'image de l'homme très performant et de la femme objet.
Oui, tout à fait. Alors, je suis sûre qu'on va pouvoir apporter tous les deux des réponses à ces questions-là, probablement pas les mêmes. Moi, je suis relativement contente, puisque vous le dites vous-même. Alors, c'est... Bon, OK, ils ont été conçus. C'est principalement des objets qu'on a sur la table aujourd'hui qui sont que pour les femmes, mais il y en a aussi pour les hommes.
Oui, tout à fait.
Hein, dommage qu'il n'y en ait pas quelques-uns qui aient été apportés. Ben oui, voilà. Ceci étant dit, moi, j'ai envie de dire, on s'intéresse enfin à la sexualité féminine et au plaisir féminin. C'est relativement récent. Et d'arriver à trouver des objets, des jouets qui soient... Il y a des formes phalliques, mais pas uniquement. Et on s'intéresse à la vibration, donc à la stimulation clitoridienne, donc à la jouissance féminine. Alors, pour moi, c'est une nette évolution.
Là, dans les objets, bon, il y a la majorité qui sont des formes phalliques, mais on a ce petit objet qui est assez...
Le galet,
qui est assez étonnant dans la pratique... et c'est vrai que ça sort un petit peu du lot de ce qu'on a l'image.
Bah oui, parce qu'il a, je pense, sauf s'il a d'autres,
d'autres
fonctions que je n'ai pas vues, mais il sert principalement à stimuler le clitoris. Donc,
Oui, toute la zone du vagin, quoi, c'est-à-dire l'extérieur, on appelle ça des toys extérieurs, donc qui sont non pénétrants. Voilà. Donc après, les autres que vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont pénétrants. Le canard aussi, c'est un non pénétrant, donc ça ne sert qu'à caresser. Par contre, c'est des objets qui ont multifonction. Bon, il y a plusieurs vitesses, etc. Bon, ça, c'est un peu pour le fantasy, mais aussi, ça peut être efficace. Les gens, ils aiment plutôt les caresses continues, pas continues, etc. Quoi. Donc après, c'est à la femme de choisir ou à l'homme. Quoi. Voilà.
Et puis, je ne sais pas qui les conçoit, si c'est des hommes ou des femmes, les designers. En attendant, je veux dire, il y a des couleurs très, très douces, très agréables. Donc, je pense qu'on a beaucoup réfléchi à la femme... Dans l'élaboration de ce type d'objet.
Vous serez surpris qu'il y a beaucoup de femmes qui créent des objets sexuels. D'ailleurs, le canard, il y a quelqu'un de très connu qui l'a fait, donc qui l'a remis à jour, il faut le dire comme ça. Par exemple, le fameux gros que vous avez dit, là, ça s'appelle le rabbit. Donc ça, c'était inventé par des Chinois il y a déjà 25 ans. Et le reste, tout était élaboré par rapport à la performance, etc. Et surtout la satisfaction, quoi. C'est-à-dire... qui mieux qu'une femme peut créer un sextoy, quoi. Donc c'est ce que je crois. Après, les hommes, peut-être ils ont rajouté un peu leur point par rapport à la grandeur et les autres choses, mais moi je crois que je sais que par exemple dans cette société où je vends leurs produits, c'est une société allemande, il y a beaucoup de femmes qui sont des gens qui créent ces objets, quoi. Voilà.
Juste une petite anecdote par rapport au rabbit, c'est que nous, au Québec, on a la même chose, mais c'est le castor qui est dessus, c'est pas le lapin. Et le castor est l'emblème du Québec.
C'est une question d'oreille ou de dents. Il y a une question dans la salle.
Oui, donc moi, j'aurais une question en fait concernant les sextoys, du fait que ce soit justement des sextoys exclusivement féminins pour le plaisir des femmes. Est-ce que depuis que c'est ouvertement utilisé par les femmes, est-ce qu'elles ne vont pas devenir plus exigeantes du fait de l'utilisation de ces sextoys envers leurs partenaires pour essayer d'avoir le même plaisir qu'avec ces objets?
Alors, pour aller dans le sens de cette question, il y a effectivement quand même cette idée que les sextoys ont une utilisation à visée masturbatoire seule. Et est-ce que, voilà, il n'y a pas, le risque qu'ils produisent des plaisirs supérieurs à la relation entre deux partenaires, pour le coup, fait de chair et d'émotion. Et en plus, le fait qu'ils entretiennent l'idée que seul, c'est peut-être quelque chose dont on va se satisfaire dans la durée.
Vous y croyez vraiment ?
C'est la question que je vous pose pour
qu'on
le
puisse
coup,
se passer, qu'on puisse se passer de la jante masculine comme ça aussi simplement et vous remplacer par un simple objet.
J'espère que non.
J'espère que non. Franchement, je ne le crois pas. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de ma patiente qui n'arrive à jouir que par le biais du vibromasseur. Je pense que ça lui conviendra un certain temps, mais qu'il y a un moment où il y aura une demande d'arriver à trouver ce même type de plaisir. Or, vous n'arriverez jamais à reproduire la vibration d'un vibromasseur parce que c'est quelque chose de mécanique. Ceci étant dit, comme je vous ai expliqué, il y a tout un tas d'autres choses qui rentrent en jeu dans le plaisir à deux et il n'y a que l'homme qui peut qui peut l'homme et la femme, en tout cas la rencontre des deux personnages ou des deux êtres qui s'attirent et qui s'aiment, qui peuvent arriver à reproduire ça.
Il est temps pour nous de mettre un terme à ce débat. Débat que nous avons conduit ici à la House Café. Café Converse à la House Café. Merci Samir pour cette invitation. Nous remercions chaleureusement Dirk Peup du magasin Ruby Passion à l'Odev, ainsi que Muriel Bassigalupo. Donc vous êtes sexologue, et puis si vos interventions ont donné à quelques personnes l'envie de vous rencontrer dans un cadre professionnel, ils trouveront vos coordonnées sur les pages jaunes, de la
Tout
même
à
façon
fait.
Que j'ai procédé pour avoir votre contact. Et bien Stéphane, je crois que nous pouvons aussi remercier Radio Pays des Hauts. Donc il y avait aujourd'hui avec nous Adrien, Olivier ainsi que Jean-Michel. Et quelques membres du CA qui sont parmi le public. Merci aux personnes présentes, à Raoul Millan pour la rédaction de cet article. Merci à celles qui ont eu le courage de prendre la parole pour ce sujet très intimidant. C'est le cas pour nous aussi d'ailleurs. Et à bientôt.
Merci Benjamin. Et je rappelle que Café Converse sera diffusé sur Radio Pays des Hauts le mardi 20 à 22h et le vendredi 23 à 10h. Merci.